que nous trouvons dans l'Écriture et qui exprime ce que nos cœurs attendent de ces rencontres. Parce que moi aussi j'attends quelque chose. Je ne suis pas là pour vous apporter simplement des messages, mais pour être avec vous dans cette retraite, pour entendre une voix plus autorisée que la mienne parler à nos cœurs et à nos consciences. Je suis un participant de cette retraite. Je ne suis pas un directeur. Je participe avec vous. Et toute mon espérance, c'est qu'ensemble, nous éprouverons la présence du Seigneur au milieu de nous. Est-ce que vous êtes d'accord que c'est cela que nous désirons? Jésus a dit lui-même, là où deux ou trois sont assemblés en mon nom, je suis là au milieu d'eux. Et c'est de sa personne que nous désirons être occupés ensemble, parce que je suis absolument convaincu que c'est de lui-même que nous avons besoin. Vous venez peut-être ici pour apprendre bien des enseignements bibliques. Mais je le dis d'emblée, les enseignements bibliques à eux seuls ne vous aideront pas énormément. Ce qu'il vous faut, c'est d'être attaché à la personne de Jésus qui nous a révélé de la part de son Père la doctrine et l'amour du Père. Et c'est du Seigneur, c'est de quelqu'un que nous avons besoin. Ce n'est pas simplement d'une nourriture spirituelle, mais d'une personne avec laquelle nous allons vivre désormais d'une façon en quelque sorte indépendante de notre entourage. Non pas que nous voulons ignorer notre entourage, mais que nous soyons en telle relation avec le Seigneur que nous puissions être en bénédiction à ceux qui nous entourent. Ne plus attendre toujours quelque chose des autres, mais être disponible dans la main de Dieu pour apporter aux autres. Comprenez-vous? C'est de cela que le monde a besoin. Des gens, des hommes et des femmes qui sont remplis du Seigneur et du cœur desquels une fontaine jaillit en vie éternelle pour que les autres puissent désintéresser. Que nous ne soyons plus toujours des assoiffés, des affamés, mais de ceux qui apportent l'eau vive à d'autres et la nourriture à ceux qui ont faim de la parole du Seigneur, parce que nous l'avons reçu et nous avons des provisions que nous apportons aux autres. Même si nous sommes conscients que nous avons très peu de choses, souvenez-vous ce que nous lisons dans l'Évangile. Il y avait des foules à nourrir. Et Jésus dit à ses disciples qui voulaient renvoyer les foules, disons, vous donnez-leur à manger. Et dit, mais qu'est-ce que nous pouvons faire? Même pour plusieurs deniers, nous ne pourrions pas nourrir de telles foules. C'était une somme assez importante dont il parlait. Et tout à coup, un petit garçon dit à un des disciples qu'il a 5 pains et quelques petits poissons. Eh bien, ce petit garçon a donné cela au Seigneur. Et le Seigneur a multiplié le peu qu'avait le petit garçon, qui a donné en quelque sorte son pique-nique que sa mère lui avait certainement préparé, puisqu'il avait voulu suivre le Seigneur. Eh bien, quand l'enfant a entendu que le Seigneur voulait nourrir les foules, il a dit, bien voilà, moi j'ai ça. 5 pains et quelques petits poissons. Et il les a donnés au Seigneur. Et qu'est-ce que le Seigneur a fait de cela? Il a nourri les foules et il y a eu des restes. Eh bien, c'est cela que nous voudrions, qu'à la fin de cette rencontre, nous soyons de ceux qui peuvent apporter à d'autres une nourriture spirituelle, mieux encore, quelqu'un, celui qui les remplit. Alors, aujourd'hui, quand j'étais en prière devant le Seigneur pour lui demander la parole qui pourrait introduire au fond toute cette fin de semaine, je l'ai trouvé dans le psaume 43. Habituellement, je note déjà le verset, mais d'habitude, nous sommes dans une autre salle et le tableau noir est beaucoup plus facile pour écrire. Ici, il y a pas mal de difficultés. Il faut repasser 3-4 fois pour que vous puissiez lire. Le tableau n'est pas lisse, mais je vous donne quand même ces textes. Psaume 43, verset 3. Et il vous montrera, au fond, ce que nous attendons de cette retraite et ce que j'attends avec vous. C'est une prière, verset 3. Envoie ta lumière et ta vérité. D'autres versions disent ta fidélité, mais littéralement, c'est envoie ta lumière et ta vérité, qu'elle me guide et qu'elle me conduise à ta montagne sainte et à tes demeures. J'irai vers l'autel de Dieu ma joie et mon allégresse, et je te célébrerai sur la harpe, ô Dieu, mon Dieu. Vous savez que c'est une prière du psalmiste qui demandait à Dieu d'envoyer sa lumière et sa vérité. Est-ce que pour nous, cette prière, cette demande, est-ce que nous pouvons dire qu'elle est déjà exaucée? C'est une prière exaucée. Qui est la lumière? C'est Jésus. Alors, le psalmiste vivait avant Jésus, alors il pouvait demander « Envoie ta lumière ». Mais maintenant, pour nous, la lumière, elle est venue. Cette lumière est venue, la lumière est venue dans le monde, de sorte que c'est un fait, et nous pouvons avoir la lumière. Quand vous dites « Envoie ta lumière », mais prenez conscience qu'elle est venue. La lumière, nous devrions la voir, nous devrions connaître la lumière. Qui est la lumière? C'est une personne. C'est Jésus. Il a dit, je suis la lumière. Cette parole qui était auprès de Dieu, qui était Dieu, a été manifestée en chair, et il est dit que dans cette parole était la lumière de la vie, la lumière de la vie, de sorte que la lumière, nous l'avons. Hein. Nous devons prendre conscience que nous devons marcher dans la lumière, parce que la lumière, elle est venue. Mais évidemment, le monde ne l'a pas voulu. Pour quelle raison? Parce que les œuvres du monde sont mauvaises. Et le monde ne veut pas marcher dans la lumière. Mais nous, si nous connaissons le Seigneur, nous devons marcher dans la lumière. Alors, c'est déjà une prière qui est exaucée. Cette prière que nous faisons monter ce soir, envoie ta lumière, nous pouvons dire, elle est venue. Elle est là. Dès les premiers instants, croyez que vous aurez la lumière. Vous aurez la lumière. Sur un point ou sur un autre, là, où c'est encore un peu obscur, croyez que la lumière vous est donnée. Et puis la vérité, bien la vérité, elle est venue. Qui est la vérité? Il n'y a pas une vérité particulière. Je suis la vérité. Vous voyez donc que ce ne sont pas simplement des vérités, c'est une personne. La lumière, c'est quelqu'un, et la vérité, c'est quelqu'un. Il dit, je suis la vérité. La vérité a été manifestée. La loi a été donnée par Moïse, disons-nous dans le premier chapitre de Jean, mais la grâce et la vérité sont venues par Jésus-Christ. Donc, quand on dit « donne-moi la vérité », on voit la vérité, vous pouvez dire « eh bien la vérité, je sais où elle est en Jésus ». C'est ce que Paul disait, la vérité, elle est église. Elle n'est pas dans un milieu particulier, dans une église. L'église est la colonne et le soutien de la vérité. Mais il n'y a pas une église qui serait la vérité. La vérité, c'est Jésus. C'est Jésus. Comme il est aussi le chemin. Il est la vérité et il est la vie. En dehors de Jésus, il n'y a pas de vie réelle. Il est, lui, la vie, il est la vérité et il est le chemin. Alors, la largeur du chemin du chrétien, c'est qui? C'est quoi? C'est Jésus. Il n'y a pas un chemin pour une religion, puis un autre chemin plus large pour une autre religion, puis un autre chemin plus étroit pour une autre religion. Il y a le chemin. Et la largeur du chemin, c'est Jésus. Jésus est la largeur de mon chemin. Quelle chose merveilleuse d'avoir tout de suite affaire avec une personne. Qu'elle me guide. Qu'est-ce qui va nous guider? C'est la lumière et la vérité. C'est quelqu'un. Je ne suis pas les lumières de Gaston Racine, moi je n'ai rien. Mais c'est la lumière de Jésus. C'est la vérité. Ce ne sont pas mes vérités, c'est la vérité qui est en Jésus. Qu'elle me guide. Et qu'elle me conduise où? À ta montagne sainte. Oh mes amis, mes bien-aimés, ce que nous désirons dans cette retraite, c'est d'être vraiment sur cette montagne sainte. Tout est branlant, tout chancelle. La montagne, c'est toujours le symbole de ce qui est stable. Eh bien, que nous soyons conduits sur la montagne. Du fond de nos vallées, nous allons sur la montagne. Et de la montagne, nous voyons toutes choses. Nous avons une vue merveilleuse quand on est au sommet de la montagne. Eh bien, le Seigneur veut vous conduire réellement sur la montagne. Quelle montagne? La sienne. C'est une montagne sainte. Une montagne qui correspond à ce qu'est Jésus, qui est la sainteté. C'est là notre montagne. Et puis, à tes demeures. N'est-ce pas merveilleux? Nous allons, j'en suis persuadé, goûter ce bonheur de pénétrer un peu dans les demeures de la maison du Père. Qui est-ce qui a parlé de ces demeures? Où une place nous était préparée? C'est Jésus. Je m'en vais envers mon Père. Dans la maison de mon Père, il y a plusieurs demeures. Qu'est-ce que nous connaissons de ces demeures? Ça devrait vous intéresser. Mais Jésus disait avec tristesse, quand je vous ai parlé des choses terrestres et que je vois que vous ne comprenez pas, comment voulez-vous que je vous parle des choses célestes? Pourtant, mes amis, ça vaudrait la peine qu'on nous parle davantage des choses célestes. On entend constamment à la radio ou peut-être à la télévision, vous le voyez, de la réclame pour le cimetière. C'est très important d'avoir réglé ces affaires pour ne pas créer des ennuis à notre entourage. Alors, mais il y a quelque chose de bien meilleur et nous voudrions connaître un petit peu les demeures de la maison du Père, où le Seigneur nous a préparé une place. C'est ça qui nous intéresse. J'ai une place qui est préparée dans le ciel. Vous pouvez me prendre ma place sur la terre. De toute façon, on doit la quitter, cette terre. Alors, pourquoi tellement se défendre? Un jour, nous devons quitter cette terre. Alors, nous devrions être des gens, oui, nous sommes reconnaissants, nous traversons le monde, mais sans y être attachés, notre attache, elle est dans le ciel. Nos vrais biens sont dans les dieux. Notre bourgeoisie, dit l'apôtre Paul, hein, c'est des versets qui doivent se fixer dans notre sensibilité. Notre bourgeoisie, elle est dans les cieux. Et puis, c'est de là que nous attendons Jésus. On n'attend pas la mort, on attend Jésus. On attend quelqu'un, parce qu'on vit avec quelqu'un, parce qu'on est attaché à quelqu'un, parce que quelqu'un remplit notre vie, parce que nous sommes habités par quelqu'un. Nous sommes habités. Alors, vous voyez, c'était les versets que le Seigneur avait mis sur mon cœur pour introduire cette retraite, que nous puissions entrer dans ces demeures, que vous deveniez familier un peu avec ces demeures et que vous puissiez en parler comme si vous y étiez déjà allé. Je sais très bien que quand on y entre un peu, on y entend des choses ineffables, qu'on a beaucoup de peine à rendre compte de ce qu'on a pu voir, de ce qu'on a pu sentir, de ce qu'on a pu éprouver. L'apôtre Paul, lui, a été ravi au troisième ciel. Et puis il dit qu'il a entendu des choses ineffables qu'il n'est pas possible d'exprimer sur la terre. Mais, et quand même, ça nous donne une joie de visiter ces demeures, et non pas simplement le cimetière. Oui, je me souviens toujours d'une duchesse, quand j'étais aumônier pendant la guerre en Suisse, elle me disait, elle était sur son lit de mort, puis je lui demandais si tout était prêt pour elle, si elle était prête. Elle dit, oui, j'ai mon tombeau. Là, c'était réjouissant. J'ai mon tombeau. Une autre personne qui me disait, j'ai fait recrépir mon tombeau parce que j'ai trop souffert de rhumatisme. Vous connaissez pas la peur. Elle avait peur que dans son tombeau, elle souffre encore de rhumatisme. Alors, comme elle avait vu qu'il y avait des infiltrations, elle avait fait crépir son tombeau. Ça, c'est nos préoccupations terrestres. Mais, mes amis, ce sont les anges qui s'occupent de nos demeures, hein, de nos places, et tout est en ordre. C'est le Seigneur qui a tout accompli. Alors, il est dit, j'irai vers l'autel de Dieu. Qu'est-ce que c'est que l'autel de Dieu? J'espère pouvoir vous en parler. C'est juste quelques jalons que je vous donne dans cette première rencontre. Hein. L'autel de Dieu. Où est-ce que Dieu a vraiment constaté l'amour qu'il avait envers nous? C'est la croix. Et nous avons parlé dans une de ces retraites ici de ce qu'était l'autel. L'autel, pour nous, c'est la croix. Alors, j'irai à l'autel de Dieu. Nous allons avoir des messages centrés sur la croix. Parce que comme je m'en vais dire tout à l'heure, le thème, donc les faits divins et nos sentiments, mort et ressuscité avec Christ, eh bien, qu'est-ce qui nous parle de cette mort et ensuite de cette résurrection? C'est la croix. Il faut passer par la croix. J'irai à l'autel de Dieu. Oui, il y a eu des autels en Israël, mais qu'est-ce qu'on y offrait sur ces autels? Les animaux. Mais sur l'autel, qui est vraiment l'autel de Dieu, qui a été offert en sacrifice? Qui s'est offert en sacrifice? C'est Jésus. C'est au fond Dieu lui-même qui s'est donné à la croix. Dieu était en Christ, réconciliant le monde avec lui-même, n'imputant pas aux hommes leur faute. Quelle chose merveilleuse. Alors, nous allons aller à l'autel de Dieu. Nous allons découvrir la croix, chercher à comprendre le sens profond de la croix, parce que j'ai cette ambition que vous ayez tellement bien saisi la valeur de la croix que vous ayez une grande délivrance. La délivrance du péché, la délivrance du joug de la loi, la délivrance de l'attrait du monde, la délivrance de notre moi, notre pire ennemi. Eh bien, tout cela, nous l'avons à l'autel de Dieu. J'irai à l'autel de Dieu pour en avoir fini avec le péché. J'irai à l'autel de Dieu pour comprendre que j'en ai fini aussi avec le joug de la loi, du tu dois, tu dois. C'est toujours quelque chose qu'on doit faire et connaître la vraie grâce. C'est la croix qui va me révéler la grâce. J'irai à l'autel de Dieu. Eh bien, vous avez déjà une vision de ce qui va nous occuper. Et ce Dieu, comment est-il appelé ici? Le Dieu de l'allégresse et de la... Ça fatigue nos réunions? Est-ce qu'elles seront prises? J'irai à l'autel de Dieu. Ô Dieu de l'allégresse et de la joie. Oh, je vais demander au Seigneur de tout mon être pendant toutes ces journées de préparation que vraiment le Seigneur vous fasse connaître son allégresse et sa joie. Mais l'allégresse que Dieu a eue, il l'a eue quand? Dans son fils. Qu'est-ce que son fils faisait en mourant sur la croix? Il rachetait l'humanité pour Dieu, pour que Dieu ait dans son ciel ses créatures qu'il avait décidé dans l'éternité passée de faire parvenir à sa gloire, mais qui s'était détourné. L'allégresse de Dieu, c'est ce qu'il a trouvé dans son fils qui aimait tellement le Père qu'il a consenti à donner sa vie pour racheter l'humanité coupable. Le Dieu de l'allégresse, le Dieu de la joie. Et si nous sommes en relation avec Dieu, nous aurons l'allégresse de Dieu dans nos cœurs. Le bonheur de Dieu. Vous ne voudriez pas un peu du bonheur de Dieu? C'est quelque chose. Je me souviens, dans les premières années de mon ministère, il y a 50 ans ou plus, eh bien, j'avais parlé à des jeunes d'un nom de Dieu qu'on trouve dans les Écritures. Le Dieu bienheureux. Vous n'avez jamais vu qu'il était parlé du Dieu bienheureux dans l'Écriture. On n'a jamais vu ça. C'est dans votre Bible. Ce n'est pas seulement dans la mienne, c'est aussi dans la vôtre. Dieu est le Dieu bienheureux. Il est le Dieu bienheureux. De sorte que si nous sommes en relation avec le Dieu bienheureux, qu'est-ce que nous aurons? Le bonheur de Dieu, nous aurons aussi de la joie. Et c'est avec le Dieu bienheureux que nous voudrions que vous soyez en contact dans cette maison que nous offre si amicalement nos sœurs qui nous reçoivent ici. Eh bien, oui, vous aurez cette allégresse et cette joie. Et alors, on arrivera à quoi au final? Si on arrive à dimanche, à le célébrer. Je le célébrerai avec la harpe. Peut-être qu'on n'a pas de harpe, mais enfin, eh bien, nous deviendrons des harpes. Que nous soyons des harpes et que le Saint-Esprit puisse toucher ses cordes, vos cordes, pour qu'il y ait une louange qui n'est pas d'exaltation, mais qui est le fruit d'un vrai bonheur. De ce que le cœur est rempli, la bouche parle. Vous aurez peut-être quelques paroles d'amour à donner à Dieu. Au sujet de qui? De son fils. De quoi parler à Dieu? Son fils. Qu'est-ce que nous pouvons offrir à Dieu? Qu'est-ce que nous pouvons faire pour réjouir le cœur de Dieu? Lui dire, eh bien, toi, ô Dieu, tu as trouvé tout ton plaisir en ton fils. Eh bien, maintenant, nous, tes créatures, nous pouvons te dire que nous trouvons notre plaisir en Jésus. Et c'est ce que le monde fait? Le monde. Où trouve-t-il son plaisir? Le monde trouve son plaisir dans le péché. Il trouve son plaisir dans la fornication, dans l'adultère. Voilà les plaisirs du monde. Ou dans les sports qui ne sont plus des sports. Si vous prenez cette espèce de drogue, vous savez bien ce qui se passe. Et ce dont les journaux parlent aujourd'hui. Les grands champions qui étaient pour nous, au fond, des vedettes. On ne parlait que d'eux. On se glorifiait d'avoir un Canadien qui avait été à Séoul et qui était le premier, qui avait une médaille d'or. Puis voilà, qu'est-ce qui reste? Comprenez-vous? J'ai vu quelqu'un qui était à Séoul, qui était un journaliste, un chrétien, qui disait, eh bien, le jour où on a donné la médaille, nous les Canadiens, on redressait la poitrine, hein? Puis le lendemain, ils avaient honte d'être Canadiens. Vous voyez comme tout se trousse. Puis nous n'aurons jamais honte de notre Seigneur. Que vous puissiez l'aimer et vous aurez une vie de gloire. Et alors, il y a un dernier verset que je vous laisse encore, qui résume au fond tout ce que j'avais sur le cœur pour ces heures que nous allons passer ensemble. C'est dans le psaume 36, on ne sort pas de ce livre des psaumes. Pourquoi est-ce que nous pouvons célébrer sur la harpe notre Dieu, qui sera notre Dieu vraiment? Eh bien, au psaume 36, je dis encore le verset 10, car auprès de toi est la source de la vie. Vous voyez, c'est de sa personne que nous avons besoin. Et auprès de lui, si nous sommes individuellement, vous et moi, en contact avec le Seigneur, avec quelqu'un de vivant, réellement vivant, et vous savez, on peut réaliser ça. C'est un fait. Ça ne sera pas un sentiment. Je ne veux pas que vous soyez simplement touché dans vos sentiments, mais j'ai le désir que vous soyez en présence d'un fait. Il y a 3 semaines, j'étais à Hall, Ottawa, et il est arrivé dans la communauté où nous avions un culte, une jeune femme qui venait pour la première fois, qui n'était pas du tout habituée à ce genre, et qui était elle-même dans une situation tragique. Eh bien, elle a dit à la fin, Dieu était au milieu de vous. La réalité, oui. La prison sensible, personne n'était vu. On ne voyait personne, il n'y avait pas quelqu'un qui présidait, mais on était ensemble autour du Seigneur, et quand on est vraiment autour du Seigneur, la personne dit, c'est vrai, Dieu était là. On a éprouvé la présence sensible du Seigneur. C'est quelque chose. Et même hier, depuis Ottawa, cette personne téléphonait encore. Ça vaut la peine de croire que c'est un fait que le Seigneur est présent au milieu des 2 ou 3. C'est pas une promesse, c'est un fait. Et ce que nous voudrions, c'est que pendant ces journées, vous ne receviez pas simplement des promesses, mais que vous soyez placé en face de faits. Et que c'est vrai. Et que vous pouvez aller avec le Seigneur. Auprès de toi est la source de la vie. Puis j'aime tellement cette parole. Par ta lumière ou en ta lumière, nous aurons la lumière. Surtout pas de... Ne parlez pas de moi. C'est pas en ma lumière. En ta lumière, nous aurons la vie. Moi avec vous. J'ai besoin de la lumière. Et vous avez besoin de la lumière. Mais quelle lumière? La sienne. En ta lumière, en la lumière de Jésus, nous aurons la lumière. Ce n'est pas assez merveilleux? Oui. Auprès de toi est la source de la vie. Est-ce que vous le croyez? Oui. Est-ce que c'est un fait? Et en ta lumière, nous espérons avoir, non, nous, non. Ayons tout de suite, dès ce soir, une attitude de foi. Eh bien, mes amis, nous allons nous recueillir un instant dans la prière. Ô Dieu, notre Père, nous sommes heureux d'être sous ton regard et conscients que nous entourons la personne de ton Fils qui a fait tes délices de toute éternité. Et nous croyons que dans ces quelques heures que nous allons passer ensemble, ou même quand nous serons dans nos chambres, nous serons dans sa présence de ce Fils bien-aimé qui a fait tes délices et qui sera aussi nos délices, aussi bien la nuit que le jour. Et nous savons que même si nous dormons dans ces chambres, tu peux nous bénir même dans notre sommeil. Tu sais que nos corps ont besoin de repos et ta parole nous dit que tu en donnes autant à tes bien-aimés dans leur sommeil. Eh bien, nous voulons croire cela. Nous voulons croire que dans ces réunions, tu vas nous parler, tu vas nous bénir, mais nous voulons croire aussi que dans nos lits, dans notre sommeil, tu nous en donneras autant, car tu parles aussi dans notre sommeil. Et nous te bénissons de ce que tu veux nous recréer les uns les autres, pour que cette fin de semaine ne soit pas quelque chose de fatigant. Tu vois que tous sont occupés dans les choses ouvrables, par toute espèce de travaux, beaucoup sont fatigués, sont venus fatigués ici. Bien, nous voulons te demander que nous n'ayons pas des réunions qui fatiguent, mais que nous ayons des moments qui nous recréent et que nous soyons rafraîchis par la puissance de ton esprit. Et nous voulons croire qu'en étudiant ta parole, nous n'allons pas être tués, mais ta parole nous fera vivre, comme le dit l'Écriture. Ta parole m'a fait vivre. Et ensemble, comme Jérémie, nous voulons dire, tes paroles se sont-elles trouvées, je les ai mangées. Elles ont fait l'allégresse et la joie de mon cœur. Et encore, nous savons que tu veux nous éclairer par ta lumière. Tu donnes de l'intelligence aux simples. Nous voulons être tout simples devant toi et croire que tu nous donneras l'intelligence dont les uns et les autres ont besoin, et aussi la mémoire qui nous fait si souvent défaut. Par ton esprit, tu veux nous rappeler dans la vie quotidienne les choses que nous aurons entendues pour que nous puissions les appliquer dans les circonstances de notre vie, que ce soit notre vie conjugale, que ce soit notre vie familiale, que ce soit notre vie sociale. Tu veux nous rejoindre et nous en bénissons. En Jésus. Amen. Je vous ai dit tout à l'heure que notre habitude était de souhaiter dans nos rencontres la bienvenue par une parole biblique. Eh bien, nous venons de faire cela. Nous avons cherché dans la parole vraiment ce qui pouvait être en bénédiction à nos âmes au début de cette retraite. Mais s'il est des habitudes que nous aimons garder, il en est d'autres qui sont d'un intérêt tout à fait secondaire et que nous pouvons laisser de côté. Par exemple, j'ai appris que certains dans les autres rencontres étaient un peu tannés de la façon dont on se présentait. Hein. Notre frère aimait bien que chacun trouve quelqu'un qu'il ne connaissait pas, puis vous aviez une minute pour vous dire ce que vous étiez, puis après alors on avait un rapport, hein, chacun essayait, puis certains étaient un peu fatigués de cela. Alors on a laissé cette habitude de côté. Et je veux croire que vous n'en êtes pas trop malheureux. Hein. N'avoir pas eu ce petit moment d'échange avec quelqu'un que vous ne connaissiez pas. Parce que, vous savez, vous allez apprendre à vous connaître. Puis je voudrais que ce soit quelque chose de spontané. Comment est-ce qu'on va apprendre à se connaître? Bien, vous avez les moments de collation où on va se détendre un peu, où on pourra parler les uns aux autres, apprécier l'un de l'autre. Et puis, il y a les moments des repas à table. Ne vous asseyez pas toujours avec les mêmes personnes. Apprenez, puisque c'est des petites tables de quatre. On peut une fois être avec les uns, une fois avec les autres. Quelquefois, j'ai tellement de responsabilités que j'aime presque être tout seul parce que j'ai encore à penser. Je ne peux pas toujours parler, hein. Mais enfin, j'essaie aussi d'être avec tous. Eh bien, vous aussi, vous ferez connaissance. Et puis, surtout, voyez dans l'autre le Seigneur. On arrivera à cela. Que Christ soit en tous. Si vous pouviez me dire, mais le Christ est en lui, ou le Christ est en elle, ça change tout à fait. Hein? Vous avez un contact, non pas avec un homme plus ou moins sympathique, avec une femme plus ou moins sympathique, mais avec le Seigneur. On va avoir des contacts avec le Seigneur. Les contacts qu'on a avec les uns avec les autres, ça doit être des contacts avec le Seigneur, parce que nous sommes membres d'un même corps. Alors nous voulons réaliser cette unité de l'esprit même dans nos repas. Nous avons laissé donc ce soir, c'est cette manière que nous avons eu pendant quelques temps de nous présenter. Pourquoi ? Surtout parce que malgré tout notre bon vouloir, il y a des personnes qui étaient un peu heurtées par ce qu'on leur disait. Et puis au lieu de créer des contacts, ça faisait plutôt des obstacles, si j'ose dire. Il y en a qui parlent trop, hein, qui tiennent raconter trop sur eux-mêmes, mais c'est pas le moi qui compte. Hein. Puis on va chercher à s'intéresser les uns aux autres, mais avec discrétion. Puis on ne va pas parler de soi, d'abord. Si on nous pose une question, on saura répondre. Mais on ne sera pas non plus des questionneurs. Il nous faut laisser les personnes dans la pleine liberté. Je voudrais que vous soyez à l'aise et non pas mal à l'aise. Les gens, quand ils viennent dans des réunions, ils sont tout de suite mal à l'aise. Parce qu'on a l'impression qu'on va mettre la main sur eux. Les agripper pour en faire des sectaires. Il n'est pas question de sectarisme. Il est question que l'on se rencontre ensemble sous le regard providentiel de Dieu que nous laissons Dieu faire. Toujours dans la vision de Jésus, qui ne s'imposait pas. J'aime tellement ce Jésus qui s'approche de deux hommes qui parlaient de lui, mais comme s'il était mort. Puis s'approche de quoi parlez-vous en chemin, s'intéresse à leur conversation. Il ne leur dit pas tout de suite qui il est, non. Il ne se fait pas connaître, il marche avec eux. Puis ensuite, il leur parle. Puis quand ils arrivent à leur destination, qu'est-ce qu'il fait? Mine d'aller plus loin. Il ne s'impose pas. Tandis que nous, on a commencé, hein? Il faut que ça finisse. Puis on les étrangle presque pour les sauver. C'est quelque chose de terrible. Mais on est peu les disciples de Jésus. Regardez, être disciple de Jésus, c'est faire comme lui faisait. Et voyez-vous, lui, il était tellement dépendant du Père qu'il pouvait dire qu'il ne pouvait rien faire sans le Père. Il ne faisait rien qu'il n'avait dû faire par son Père. Je ne peux rien faire de moi-même. Puis nous, on est toujours capable. Vous êtes pas d'accord? On se croit toujours capable. On fait des dégâts avec les âmes. Alors que quand je vois mon Seigneur, je le recueille en lui. Et le Seigneur se recueillait dans son Père. Alors nous aurons de la bénédiction. Oui, je sais que vous ferez connaissance les uns avec les autres. Je sais que le Seigneur créera entre vous des liens, mais qui seront spontanés. Et voyez-vous, quand on l'a rencontré, lui, on peut rencontrer les autres. Mais il faut d'abord que nous le rencontrions lui-même.
ce qui est arrivé à Jacob. Jacob avait une peur terrible de rencontrer qui sur son chemin. Ésaü a pris 20 ans de séparation, alors qu'il savait qu'Ésaü voulait le tuer, mais voilà, Ésaü est encore vivant. Puis 20 ans après, il va rencontrer Ésaü. Il a peur. Et c'est là que, pour ceux qui ne connaissent pas le sens de Mahanaïm, Jacob, revenant avec ses femmes et ses enfants, prie. Et puis tout à coup, il a une vision d'ange. Et il dit, mais c'est le camp de Dieu, et il a placé ce lieu-là, Mahanaïm. Et c'est ça. Hein. La signification de Mahanaïm, le camp de Dieu, il est fortifié. C'est le chapitre 32 de la Genèse, où nous avons trouvé ce nom de Mahanaïm. C'est le camp de Dieu. Il rencontre le Seigneur. Il rencontre Dieu. Et puis, comme vous l'avez dans le même chapitre, après avoir lutté avec le Seigneur et s'être abandonné à lui, tant qu'il a lutté, il n'a pas été vainqueur. Quand il s'est abandonné, alors il a triomphé. Et il a pu voir plus tard Ésaü. Et quand il a rencontré Ésaü, qu'est-ce qu'il lui a dit? Quand Ésaü, au lieu de le frapper, lui a ouvert ses bras et ils sont tombés dans les bras l'un de l'autre, Jacob dit, j'ai vu ton visage comme on regarde la face de Dieu. Moi j'aime beaucoup ce verset, c'est dans le chapitre 33 de la Genèse. Quand on a été avec le Seigneur, on peut voir le visage de son ennemi comme si c'était la face de Dieu. J'ai vu ton visage comme on regarde la face de Dieu. Mais il faut d'abord que j'ai vu le visage de Dieu. Que j'ai été en contact avec Dieu. Alors quand j'ai été en contact avec Dieu, l'apparence même de mes ennemis est toute différente. On peut rencontrer ceux qui étaient contre nous. Voyez-vous, quand les voix d'un homme plaisent à l'Éternel, il met ses ennemis même en paix avec lui. On n'a pas besoin de se charger de nos ennemis. Laissons ça au Seigneur. Alors, dans ces retraites, comme vous le savez, plusieurs qui y ont participé, en l'année 87, notre thème était le Dieu trinitaire. Je vous dis ça parce que nous reviendrons un peu sur cette question-là, du Dieu trinitaire. Hein? Et nous avons étudié le Père de gloire dans un premier volet, ensuite le Seigneur de gloire, le Fils, et l'Esprit de gloire. C'était les livres des Éphésiens, des Corinthiens et l'Épître de Pierre. Le Père de gloire, le Seigneur de gloire, et l'Esprit de gloire. En l'année 88, nous avons été conduits à étudier les caractères d'un vrai réveil spirituel, parce qu'on parle beaucoup du Québec, mais pas, il y a un réveil au Québec, mais qu'est-ce que c'est ce réveil? Alors on a vu ce qui se passait réellement quand il y avait un vrai réveil, l'autel était remis sur ses bases, la croix retrouve sa vraie place, puis la maison sur son fondement. Le fondement de la maison, n'est-ce pas, c'est Jésus-Christ. Il n'y a pas une autre église. Le fondement sur lequel tout est construit, c'est Jésus-Christ. Il est la pierre angulaire. Puis enfin, dans la dernière retraite, voilà, nous allons écrire, on les salue et on leur souhaite une heureuse entrée parmi nous. Sylvia et Diane, soyez les bienvenus. On est heureux de vous savoir hors de danger. Hein? Et il manque encore les ténèbres, je crois. Oui. J'espère qu'ils n'ont pas oublié. Alors, nous parlions de la maison sur son mouvement. Alors, la dernière retraite, c'était les murailles sur leur emplacement. Non pas des murailles entre chrétiens, mais les murailles entre nous et le monde. Entre nous et l'ennemi. Des murailles qui nous préservent des tentations et du monde, mais pas des murailles qu'on élèverait entre les croyants. Nous ne voulons pas de ces murailles-là. Une muraille, donc, nous sépare, mais en même temps nous protège, mais du mal et du monde, dans le sens du monde qui est mauvais, et dans l'Écriture. Nous allons voir le sens de tous ces textes. Et alors, cette année, Eh bien, j'ai été conduit à prendre ce thème, les faits divins et nos sentiments, et nous les traiterons, donc nous traiterons ce thème aussi en trois volets, et le premier, donc, à partir de demain, mort et ressuscité avec Christ, c'est donc le premier volet. Le second volet qui aura lieu, si on arrive au mois d'octobre, caché dans le Christ en Dieu, est-ce que c'est un sentiment ou bien ce sont des faits? Est-ce que nous pouvons vivre vraiment cachés dans le Christ en Dieu? Et puis, le troisième volet pour le mois de novembre, plus que vainqueur par celui qui nous a aimés. Alors vous allez dire, mais moi je ne suis pas vainqueur. La parole de Dieu dit plus que. Alors, c'est à savoir qu'on peut croire la parole, si c'est un fait ou bien si vraiment. C'est un mensonge. Nous voulons demander à Dieu qu'il nous conduise. Dieu, ce soir, je me borne à vous dire pourquoi je crois devoir continuer ces rencontres. L'effet divin et nos sentiments. Vraiment, ce qui m'a poussé à continuer ces retraites, c'est de constater avec une profonde tristesse que la majorité des chrétiens ne sont pas vraiment des gens heureux. C'est vrai ou c'est faux? La grande majorité des chrétiens ne sont pas des gens vraiment heureux. Des gens détendus. Des gens vivables. On m'a dit l'autre jour, c'est une femme, elle aime bien son mari, mais elle m'a dit, c'est un mauvais caractère. Il est chrétien, il est même diacre dans une église. Un diacre qui a un mauvais caractère. Comment voulez-vous qu'il s'occupe des autres? N'est-ce pas? Et s'il apporte son mauvais caractère à sa femme, vous pouvez bien penser qu'il apporte aussi son mauvais caractère dans l'église. Mais alors, c'est quand même terrible. Si ceux qui portent le nom de Christ ne sont pas des gens heureux, des gens libérés, des gens délivrés, des gens qui peuvent vraiment apporter la paix. Alors, qu'est-ce qui est arrivé? Bien, je mets sans doute la conversion des chrétiens. Après leur conversion, ils avaient connu une certaine paix, et je dirais même une certaine joie. Puis, au bout d'un peu de temps, ils ont découvert que leur vie était vraiment peu transformée. Qu'est-ce que ça a changé? Leur fameuse décision. Qu'est-ce que ça a changé? Ça a tellement peu changé. Parce que vous savez, dans les réunions de témoignage, on peut dire n'importe quoi. Une fois dans une réunion de témoignage, un homme s'est levé et a dit « Moi, depuis 6 mois, je n'ai plus péché. » Vous savez ce que le prédicateur a répondu? Ce qu'on peut le demander à votre femme? C'est rapide. C'est ça, on peut vivre tout à fait dans les nuits blanches. Et alors, si les vrais vont dire, on dit, mais ça n'a pas tellement changé les choses dans ma vie. Et on voudrait aller jusqu'au fond, maintenant, dans cette retraite. Alors peut-être que depuis notre conversion, justement, on a quitté le milieu qui nous avait vu naître. On a abandonné sa religion. Et puis, on s'est joint à une communauté dite évangélique, en espérant trouver là une garantie pour au maintien de notre bonheur. Je dis, ben, ça sera mieux que où j'étais avant. Alors aujourd'hui, peut-être, on fait partie d'une chorale, on chante des cantiques. On participe aussi à des efforts d'évangélisation périodique, dans lesquels on fonctionne peut-être, on a fonctionné comme conseiller, on connaît le plan du salut, On pense pouvoir l'expliquer aux âmes.
Mais au fond, si ces personnes voulaient être francs, elles ne se sentent pas si sauvées que ça.
Même si ces personnes disent facilement le nombre des années de leur salut.
Et vous dites-vous, ça nous fait toucher l'évangélisation de nos temps modernes. Qu'est-ce qu'il est devenu l'évangélisation des temps modernes? Elle est devenue une propagande. Il y a plusieurs propagandes dans ce monde.
Et il y a une certaine évangélisation qui est devenue, au fond, une propagande.
Alors on annonce le salut. Puis on voudrait tellement que les gens soient sauvés que on simplifie le salut le plus possible. Ce que j'ai appelé si souvent le salut Nyaka. Vous connaissez le salut Nyaka? Nyaka croit.
Quand Seigneur Jésus, tu seras sauvé. Nyaka. Salut Nyaka.
Salut Nyaka. Vous l'avez, le salut Nyaka?
Oui, on peut même rire dans une réunion.
Alors, il faut faire quand même attention parce que c'est quelque chose de très grave et on risque de plonger les âmes dans le désespoir.
J'ai entendu cela, moi, pendant des années. On disait que le salut, ben, c'était comme un billet chemin de fer, première classe pour le ciel. Tu l'as pas payé, hein? On t'a donné le billet. Billet première classe pour le ciel. Tu peux ronfler là-dedans. C'est compris. Et puis, on nous donnait même un petit billet. Un petit billet pour nous montrer que c'était ça. Puis, il y avait des versets bibliques. Comme vous avez des dollars, où il y a des versets bibliques sur des dollars. Et ça, c'est au Québec que j'ai vu ça. Hein? Il y a 15 ans,
il y avait un prédicateur qui était tout heureux parce que quelqu'un lui avait donné 5 dollars. Puis moi, je regarde son billet, il était tout heureux. C'était un truc évangélique. Je dis un truc évangélique.
Alors, pour que la personne accepte un verset de l'évangile, on avait imité un billet. Un billet de 5 dollars qui ont distribué ça. Celui qui avait distribué ça, c'était un évangéliste. Oui,
on veut tellement faire l'œuvre de Dieu. Jésus disait lui qu'il ne pouvait rien faire. Qu'il n'amenait personne. Que c'était Dieu qui attirait son Père. Nul ne peut venir à moi si le Père qui m'a envoyé ne l'a fait. Alors, ça nous met dans la poussière, que c'est Jésus lui-même qui dit ça.
Et si c'est pas Dieu qui vous attire tout le reste du truc. Et ça ne tiendra pas, ça ne peut pas vous apporter le bonheur.
J'ai une sainte ambition pour vous. Parce que je voudrais que vous soyez dans le vrai. Parce que c'est la parole de Dieu. Alors on nous donnait notre billet de chemin de fer, alors on avait son billet dans la poche. Je suis sauvé. Et c'était vrai, c'est texte biblique sur le billet. Je ne dis pas qu'il était faux. On n'est pas sauvé par un texte biblique. On est sauvé par une personne, comprenez-vous? Puis on nous disait aussi qu'il fallait qu'on ait un passeport pour le ciel. On prenait l'image du passeport. Puis on nous apprenait des notes cantiques. J'ai mon passeport, je ne l'ai pas signé. Je l'ai signé par mon sauveur. Je ne l'ai pas payé, pardon. J'ai mon passeport, je ne l'ai pas payé, il est signé par mon sauveur. C'est au nom du nom du sauveur. Alors on avait notre passeport. Alors quand on ouvrait devant, au moment de la grande douane, on montrera notre passeport signé par le sang de l'agneau. Il y a des vérités. Le salut n'est pas un passeport.
bien alors, on a tellement peur de l'enfer que, au fond, c'est une police d'assurance contre l'incendie éternel. Le salut, c'est une police d'assurance contre l'incendie éternel. Comme ça, vous n'irez pas griller dans l'enfer.
Vous avez votre police d'assurance, j'ai ma police dans ma poche.
Mais ça change rien d'avoir quelque chose dans ma poche. C'est dans mon cœur que tout doit être changé.
C'est un cœur nouveau qu'il nous faut. Alors faisons attention dans notre zèle, tout est ici pour sauver les âmes. Ne les conduisons pas vers l'abîme, vers la déception. Voyez-vous, la vie éternelle est trop apparue pendant longtemps à plusieurs comme quelque chose. Et puis le salut, mais au fond, qu'est-ce que c'est le salut? Le salut, mais qu'est-ce que c'est, mes bien-aimés? Pourquoi est-ce que vous êtes sauvés? Pour ne pas aller griller en enfer? C'est ça votre salut? Pour échapper à la perdition éternelle? C'est tout ça, vous voulez sauver pour ne pas aller dans les temps de feu et de souffre? C'est ça votre salut? Mais nous voulons être sauvés pour autre chose. Qu'est-ce que c'est que le salut? Pour glorifier notre Père. Pour que Dieu soit glorifié. C'est cela que nous devons comprendre. Je suis sauvé non pas pour ne pas aller souffrir. Je suis sauvé pour souffrir, justement. Pour que sur la terre, je marche dans les traces du Seigneur. Et qu'est-ce que le Seigneur m'a promis? Le vrai Seigneur m'a promis la croix. Mais si tu veux me suivre, renonce à toi-même. Et cela, tous les jours. Et c'est dans ce chemin-là que nous allons travailler dans ces journées. Hein. Comment le Seigneur veut? Il ne nous a pas trompés. Il n'a pas dit que c'était facile de le suivre. Mais il nous a promis sa présence. Et puis, pour agir, il ne nous a pas dit que vous aurez la force. Mais il nous donnera la force. Par le Saint-Esprit. C'est le Saint-Esprit en nous qui va agir. Personne vivante, la force que je n'ai pas, je la reçois d'un autre. C'est un autre qui vit en moi. Et la grosse question pour nous, c'est de se laisser faire par lui. Alors la vie éternelle, c'est quoi? Ce n'est pas quelque chose, c'est quelqu'un. Et je l'ai souvent dit et redit, quand Jésus a été présenté au temple par Marie et Joseph, le vieux Siméon a pris l'enfant dans ses bras et il a dit en le regardant, mes yeux ont vu ton... Donc le salut, c'est quelqu'un, c'est pas quelque chose. Mes yeux ont vu ton... Une lumière pour les nations, donc le salut du peuple, le salut de Dieu, une lumière pour les nations et la gloire d'Israël. Quand Israël reconnaîtra que Jésus est leur sujet de gloire, tout sera différent pour ce peuple. Mais il faut que ce peuple arrive à reconnaître Jésus comme étant leur sujet de gloire. La vie éternelle, c'est quelqu'un. Mais c'est ce que l'apôtre Jean nous dit. Ce qui était dès le commencement, ce que nous avons vu de nos yeux, ce que nous avons entendu, ce que nous avons contemplé, ce que nos mains ont touché, savoir la parole de vie, cette parole qui était auprès du Père, cette vie éternelle, elle a été manifestée. Donc la vie éternelle, c'est quelqu'un. La vie éternelle, c'est le Christ. Le Christ qui veut vivre en nous. La vie est dans ton Fils, dit l'Écriture. Vous connaissez bien ce verset de l'Épître de Jean. Celui qui a le Fils a la vie. Celui qui n'a pas le Fils n'a pas la vie. Voilà ce que nous lisons. Alors c'est pour ça que dans ces journées, nous allons, comme l'apôtre Paul le dit, essayez d'apprendre à le connaître, lui. Vous direz, mais
on le connaît, je ne vais pas dire qu'il pensait que tout le monde ici était sauvé, appartenait au Seigneur, je veux le croire, n'est-ce pas? Mais l'apôtre Paul, qui était depuis longtemps au Seigneur, puisqu'il avait été, il l'avait rencontré sur le chemin de Damas, alors qu'il n'y croyait pas avant, mais il l'a rencontré, sa vie a été transformée, vous ne pouvez pas douter de cela. Paul de Tarse est devenu l'apôtre, Paul, le persécuteur, est devenu le persécuté, et c'est lui qui a été employé par Dieu pour apporter l'évangile à l'Europe en particulier, en commençant par la Macédoine. Alors qu'est-ce qu'il disait au fond de sa prison romaine, dans l'épître aux Philippiens, qu'il cherchait à le connaître, lui, qu'il avait fait même la perte de toute chose pour le connaître, lui. Il estimait même tout le reste comme des ordures. Vous me direz, mais moi je le connais le Seigneur. Vous le connaissez? Moi je désire encore le connaître. Et nous sommes tous ici, hein, aussi vous aviez ce désir de le connaître mieux. Le connaître lui, comme on ne l'a pas encore connu. Le connaître lui, connaître quelqu'un. Parce qu'au fond c'est ça que nous avons besoin. Si vous le connaissiez lui, voyez-vous, c'est ce que j'ai écrit dans une de ces petites brochures. Vous dites si souvent, oh, si je pouvais le rencontrer. Mais qu'est-ce que vous lui diriez? Si vous pouviez rencontrer le Seigneur ce soir, visiblement, comme il était sur les routes de Palestine. Comment? Ben, bien sûr, vous ne lui demanderiez rien de ce que vous vouliez. Parce que quand vous l'auriez vu, vous auriez compris que vous avez... Vous auriez compris que vous avez tout et que vous êtes comblé par lui. C'est ça que nous avons besoin. Comme j'ai Jésus, j'ai tout. Vous avez tout pleinement en Christ. Alors, mais si c'est pas ça mon expérience, alors je me dis, mais je veux chercher. Bien, Paul dit, j'estime tout ce que le monde peut me donner, tous les avantages que j'ai dans le monde, j'estime ça comme des ordures, pourvu que je gagne. Et que je sois trouvé en lui. Alors il voulait le connaître lui. Et il dit, et la puissance de sa résurrection. Parce qu'il n'est pas question seulement d'être mort, mais nous verrons comment on peut avoir cette puissance. Et il faut d'abord être mort à nous-mêmes. Puis, et ressuscité. Alors Paul dit, je voudrais le connaître lui, et la puissance de sa résurrection. C'est Philippiens 3, verset 10. La puissance de sa résurrection. Puis ensuite, il dit, est la communion de ses souffrances. Nous, on aurait dit peut-être, pour le connaître lui, est la communion de ses souffrances, et la puissance de sa résurrection, parce qu'on veut toujours la puissance en dernier. Non, j'ai besoin de puissance pour pouvoir entrer dans la communion de ses souffrances. Voyez-vous, quand on demande de la puissance, c'est pas demander de la puissance pour faire des grandes choses, pour faire des miracles, c'est pas ça. C'est demander de la puissance pour pouvoir souffrir comme Christ. Parce que pour Jésus, ce que j'ai dit souvent, obéir, c'était souffrir. Et pour Jésus, réussir, c'était mourir. Parce que si Jésus n'était pas mort, c'était raté. Il n'y avait qu'un grain de blé. Il fallait que le grain de blé tombe en terre. Donc, réussir pour Jésus, c'était mourir. Pour vous réussir, c'est mourir. Si vous ne voulez pas de ça, si vous ne voulez pas de la croix pour vous, vous la voulez bien pour le Seigneur. Oh, c'est tellement bien. Le Seigneur a tout souffert pour nous, puis moi je ne souffrirai pas. Le Seigneur a connu la damnation, mais moi je ne serai pas damné. Comprenez? Mais est-ce que c'est ça notre salut? C'est tout autre chose. Alors on sait pourquoi on vit, on sait pourquoi on est dans le monde. On a une raison de vivre, on a une vision. Mais bien aimé, je sais que le Seigneur vous le donnera. Je sais que le Seigneur vous bénira. Je sais que vous ne repartirez pas comme vous êtes venu. Et puis, je sais que ça tiendra. pour l'apôtre Paul, la source de sa vie, c'était Jésus. Sa joie, qu'est-ce que c'était?
Dites-moi un peu. La joie de Paul. La joie de Jésus, c'était de faire la volonté de son Père. Mais la joie de Paul. Au fond de sa prison, qu'est-ce qu'il disait? En écrivant aux
Philippiens, il leur disait, envoyez-moi de suite des aspirines. Tellement que c'est mal. Réjouissez-vous toujours dans le Seigneur. Encore une fois, je vous le dis, c'était un message solide qui ne se plaignait pas. Nous, on se plaint tout le temps. Si ce n'est pas mon foie, c'est mon estomac, c'est ma femme, enfin, je ne vais pas vous faire des parce qu'il y a ma femme qui me regarde, et puis elle dira que je vous montre ce mauvais endroit. c'est pas drôle d'être avec une femme médecin. C'est aussi une bénédiction. Je me fais le ménage. Tu joues à ping-pong, hein? Alors, mes amis, c'est quelque chose. La joie de Paul, ce n'était pas les circonstances. Or, nous, on est heureux seulement quand les circonstances sont favorables. C'est lamentable si on est heureux seulement quand les circonstances sont favorables. Soyez toujours joyeux. Encore une fois, je vous le dis, réjouissez-vous. Parce que alors, le monde nous dit, mais vous dites que vous êtes chrétien, vous dites que vous avez Jésus, vous dites que vous êtes le bonheur.
Qu'est-ce que c'est votre bonheur quand on voit votre tête? Vous plaignez toujours.
Il est dit qu'à la fin des temps, les gens seront des murmurateurs. Et c'est vrai, les gens murmurent. Puis c'est toujours le Seigneur qui est responsable. Pourquoi est-ce que Dieu a permis ça? Nous, on s'en lave les mains. Toujours Dieu qui est responsable. Alors que Dieu permet certaines choses pour nous éprouver, mais en bien, pour nous faire du bien. Alors nous devrions nous réjouir en toutes choses. Et nous aurons les faits divins qui nous montreront que nous pouvons vivre cela. Alors, la paix de Paul, qu'est-ce que c'était? Lisez Éphésiens. Chapitre 2, il est notre paix. Qui est-ce qui est notre paix? C'est Jésus-Christ. C'est quelqu'un qui est notre paix. La paix, c'est pas un certain liquide. C'est pas qu'il serait versé dans notre cœur. La paix, c'est quelqu'un. La paix, c'est Jésus-Christ. Il est notre paix. Celui qui a triomphé de tous les troubles, même de la mort. Voilà pourquoi, même quand je marcherai par la vallée de l'ombre, de la mort, je ne craindrai aucun mal. Je suis en paix, j'ai la paix avec Dieu. Alors, ce n'est pas simplement la paix. On a la paix parce qu'on ne sera pas condamné à cause de nos péchés, parce qu'on met toujours les péchés en avant. Il n'est plus question du péché. Le Seigneur voudrait que vous soyez libérés de cette culpabilité. Il n'est pas mort pour rien, le Seigneur. Il est mort pour vos péchés. Il est venu pour que cette question du péché soit réglée et que vous n'ayez plus toujours votre nez sur vos péchés, mais que vous ayez vos yeux sur Jésus, votre Sauveur. Et alors, quand vous vous en rendiez compte, vous commencez à lui ressembler. Mais si j'ai le nez sur mes péchés, eh bien, j'ai la figure vraiment du pécheur. Je suis malheureux. Je suis malheureux. Mais le Seigneur n'est pas mort pour rien. Et puis je n'ai plus à m'occuper de cela, j'ai à m'occuper de lui. Alors mes amis, on va terminer. Qu'est-ce que c'est? J'aime bien que vous soyez bien au clair sur cela. On va essayer de comprendre qu'est-ce que c'est qu'un fait. C'est une chose dont on a reconnu la réalité. Hein? Un fait, c'est une chose dont on a reconnu la réalité. C'est un événement, un fait. Et vous savez que les vraies sciences reposent sur l'observation des faits. Un fait, c'est ce qui est arrivé. Un fait, c'est ce qui a eu lieu. Un fait, c'est une action, une chose accomplie, certaine, trouvée, qui existe réellement, qui est donc du domaine du réel. Alors, le fait, il est opposé à l'idée du rêve. Hein. On ne rêve pas, c'est un fait. Et un fait, c'est quelque chose qui est extérieur à nous. C'est quelque chose que l'on peut observer. Alors, qu'est-ce qu'un sentiment? Essayez de vous rappeler ça, enfin, on y reviendra, n'est-ce pas, mais je donne juste les grandes lignes. Qu'est-ce qu'un sentiment? Ben, le sentiment, ce mot, comme vous le savez, il vient de sentir. C'est une manière de penser, un sentiment. C'est une manière d'apprécier. C'est une impression. Une impression qui a à faire avec notre sensibilité. C'est la conscience plus ou moins claire d'une chose. Une connaissance comportant des éléments affectifs et intuitifs. Un sentiment, c'est une capacité de sentir. Une opinion qui se fonde sur une appréciation subjective et non sur un raisonnement logique. Au fond, un sentiment, c'est un avis, c'est une idée, c'est un point de vue. Est-ce que vous savez que c'est un point de vue? Est-ce que vous avez le sentiment d'être sauvé ou bien est-ce que vous êtes sauvé? Est-ce que c'est un fait ou bien est-ce que c'est un sentiment? Et alors, j'ai dit un fait divin. Hein? Les faits divins. Qu'est-ce que c'est le divin? C'est quelque chose qui appartient à Dieu, qui vient de Dieu. Un fait divin, c'est quelque chose qui est vraiment reconnu par Dieu. Quelle est l'autorité d'un fait? S'il est divin, c'est que c'est Dieu qui dit. C'est Dieu qui parle. Hein? Alors, comment pouvons-nous savoir qu'un fait est divin? Par la parole de Dieu. Voilà nos sources. Notre source, ce sera uniquement la parole de Dieu. Pour reconnaître si ce fait est divin. Est-ce que Dieu a parlé dans ce livre? Est-ce qu'on peut croire les paroles de ce livre? Est-ce qu'on peut dire que ce qu'il dit dans ce livre est un fait? Alors, je me suis vraiment tenu devant Dieu pour que il manque pas quelque chose. Je ne dis pas qu'il ne manquera rien. Je suis insuffisant complètement, comme dit Saint Paul, qui est suffisant pour ces choses. Mais on va s'occuper du péché. Par exemple, la chute, est-ce que c'est un fait divin ou bien le péché, est-ce que c'est un sentiment ou bien est-ce que c'est une réalité? Vous êtes sûr? Il y en a beaucoup qui disent que c'est une invention des pasteurs et des prêtres, parce qu'il faut bien qu'ils aient un pas. Alors ils exploitent le péché. Hein? Est-ce que la chute, c'est un fait? Est-ce que le péché, c'est un fait? Et la chair, est-ce que c'est un fait? Et la loi, est-ce que c'est un fait? Est-ce qu'il y a une loi? Et le monde? Ce sont des faits, n'est-ce pas? Mais alors, la venue de Jésus, est-ce que c'est un fait? Vous êtes sûr? Est-ce que vraiment il y a eu un Jésus? C'est un fait? Même les athées, quand ils signent leur courrier chaque jour, à la fin du deuxième millénaire, hein, qu'est-ce qu'ils reconnaissent ? La venue de Jésus. Qu'il le veuille ou non, on est en l'an 1989, il les écrit ça. Ils le reconnaissent, même s'ils ne croient pas en Jésus, ils reconnaissent que nous sommes dans l'ère dite. Et donc, il y a eu Jésus. Mais alors, qui était Jésus ? C'est ça que nous voulons savoir. Et qu'a fait Jésus ? Oui ou non, Jésus a-t-il été crucifié ? Est-ce que c'est un fait ? Mais maintenant, la résurrection de Jésus, est-ce que c'est un fait ? Parce que c'est drôlement attaqué, hein ? Vous savez, aujourd'hui, plus que jamais. Mais si c'est un fait, alors, qu'est-ce qui va découler de cette mort de Jésus et de cette résurrection ? C'est pour lui qu'il est mort ? C'est pour lui qu'il est ressuscité ? Ces faits ont une prolongation en nos vies. Alors, si ce sont des faits en Jésus, ça doit être aussi des faits en nous. Ça, vous pouvez en être sûr. Eh bien, voilà. Nous allons nous arrêter là. Et je ne sais pas si vous avez tous une Bible. Hein? Mais la grande toile de fond qui va être employée, c'est l'Épître aux Romains. Je peux vous demander de la distribuer. Oh, c'est pas pour vous enlever votre lecture dans votre Bible, mais si on fait des lectures aussi, eh bien, vous aurez. C'est le français courant. Alors, je vous laisse ça en souvenir. Vous pourrez la donner après, si vous voulez, à quelqu'un. Eh bien, mes amis, j'aime à vous saluer au nom du Seigneur Jésus. Je veux croire que vous avez eu une nuit de repos et que nous pouvons commencer cette journée avec la certitude que le Seigneur nous réserve de grandes bénédictions. Des bénédictions correspondant à chacun de nos besoins. Hier soir, nous avons cité, pour introduire ces journées, le psaume 43. Où nous avons demandé au Seigneur d'envoyer sa lumière et sa vérité. Et nous avons de suite reconnu que c'était une prière en quelque sorte déjà exaucée. Puis nous lui avons dit que nous irions jusqu'à son autel et à ses demeures. Et il nous a rappelé qu'auprès de lui était la source de la vie, et qu'en sa lumière, nous aurions la lumière. En sa lumière. Nous savons où aller pour trouver la lumière. N'est-ce pas merveilleux ? En sa lumière, nous aurons la lumière. Nous n'avons pas besoin d'aller en Orient pour chercher la lumière. Nous avons la lumière en sa lumière. De sorte que c'est lui que nous désirons rencontrer. Alors ce matin, ce que le Seigneur m'a donné pour nous tous, c'est cette certitude, puisque nous étudions les faits divins et nos sentiments, nous trouvons dans la deuxième épître de Paul à Timothée, dans son testament spirituel, c'est la dernière lettre qu'il a écrite à son enfant dans la foi, Timothée, c'est son testament, ce sont ses dernières paroles. Et qu'est-ce qu'il disait ? Cette parole est certaine. C'est un fait.
C'est une parole certaine. Il y a dans le Nouveau Testament à 7 reprises cette expression-là. Et c'est surtout Paul qui l'emploie, puis on la trouve aussi dans l'Apocalypse. Mais c'est très intéressant d'étudier ces paroles certaines. Toutes les paroles de l'Écriture sont certaines, mais il souligne quelquefois une pensée. Alors, cette parole est certaine, et ça rejoint notre thème de cette journée, ce premier volet. Si nous sommes morts avec lui, nous vivrons aussi avec lui. C'est vrai ou c'est faux? Est-ce que nous allons le croire aujourd'hui? Et si nous le croyons aujourd'hui, nous pouvons le croire pour toute notre existence. Cette parole est certaine. Si nous sommes morts avec lui, nous vivrons avec lui. Quand là-haut seulement, non, déjà sur la terre, nous vivrons avec lui. Si réellement nous sommes morts avec lui, c'est une possibilité de vivre avec lui. Du reste, nous n'aurions pas d'autre vie. Nous n'avons pas d'autre vie que la sienne. Et c'est cela que bon Dieu comprend. Mais pour avoir une autre vie, il faut d'abord accepter de mourir. Et c'est cela le point capital. Il faut d'abord accepter de mourir pour avoir une vie nouvelle. Et comme nous allons étudier des choses profondes, je me disais, mais comment faire, Seigneur, d'abord pour exposer ces vérités, pour qu'elles soient claires, pour qu'elles soient compréhensibles pour vous, en tant toute notre faiblesse, toute notre insuffisance. Et alors nous avons toujours une parole qui nous est donnée dans le même chapitre 2 de la deuxième épître à Timothée. Comprends ce que je te dis, dit l'apôtre Paul, comprends ce que je te dis. Le Seigneur te donnera de l'intelligence en toutes choses. Vous ne trouvez pas que c'est merveilleux? Voilà, pour le début de cette journée, où nous allons étudier des choses profondes et qui doivent nous rester, qui doivent nous marquer, se fixer dans notre sensibilité pour que dans nos réactions, dans le quotidien, nous nous souvenions de ces choses. Le Saint-Esprit, devenant notre mémoire, nous rappelle un texte, une parole qui est esprit et vie et qui nous instruit, qui nous illumine. Ces paroles sont une lampe à nos pieds et une lumière sur notre sentier. C'est cela, avoir la parole de Dieu dans nos vies, pas simplement dans les couvertures du livre. Il faut que cette parole s'inscrive en nous. Et le Seigneur, disait Paul, te donnera de l'intelligence en toutes choses. Alors, je voudrais que vous ne soyez pas accablés ce matin en disant, mais comment est-ce que je vais comprendre? Ce sont des choses peut-être trop profondes. Ou alors, quand vous repartirez, puis qu'on vous demandera, alors qu'est-ce que vous avez étudié? Oh, c'était tellement profond, je ne m'en souviens plus. Alors donc, ça aurait passé au-dessus de vos têtes, parce que c'est moi qui suis le responsable. Parce que les gens qui disent qu'ils n'ont pas compris parce que c'était tellement profond, donc vous savez, je mets un grand point d'interrogation sur celui qui les a enseignés. Parce qu'une chose profonde, elle n'est pas une chose nécessairement compliquée. C'est vrai ou c'est faux? L'évangile de Jean est composé de 700 mots différents. Et un vocabulaire de 700 mots, c'est ce que possède ordinairement un enfant de 6 à 7 ans. Comme vocabulaire, un enfant de 6 à 7 ans, on compte qu'il sait environ 700 mots. Eh bien, l'évangile de Jean, qui est certainement le plus profond, est l'évangile qui est écrit le plus simplement. L'évangile le plus simple est aussi le plus profond. Et puis, ce qui me réjouit, c'est que nous avons quelqu'un au milieu de nous, quoi qu'invisible. Nous avons le Seigneur. Et le Seigneur, qu'est-ce qu'il a dit en regardant ses disciples qui se réjouissaient d'avoir pu témoigner? Eh bien, tout à coup, il lève les yeux au ciel et dit, « Je te loue, ô Père, Seigneur du ciel et de la terre, parce que tu as caché ces choses aux sages. »
et aux intelligents, et tu les as révélés à qui? Aux petits enfants. Alors, ce que j'ai demandé au Seigneur, c'est que nous tous ici, ce matin, nous ayons des cœurs d'enfants. Des cœurs d'enfants. Que nous devenions, que nous acceptions des petits enfants pour nous laisser enseigner, non pas par moi, mais par le Seigneur lui-même, et que nous puissions, comme un petit enfant, croire ce que son père ou ce que sa mère lui disent. On ne met pas en doute les paroles d'un père ou d'une mère quand on est un petit enfant. On le croit. Eh bien, nous voulons avoir un cœur d'enfant pour croire ces paroles, afin de devenir aussi, dans ce monde, des fils. Nous n'allons pas rester des bébés, hein. Nous allons devenir des fils et des filles de notre roi et avoir une vie royale dans ce monde de péché et de tentation, de stress, d'épreuve, pour que nous puissions passer à travers tout cela en étant en contact avec notre Père des cieux, comme Jésus était en contact avec son Père. Le seul secret de Jésus, c'est qu'il était en contact avec le Père. Et il nous a révélé ce que pourrait être une vie vraiment humaine. Sage. Et Paul le dit, Christ est ma vie. Il n'a pas d'autre vie en dehors de la sienne, de la vie de Christ. Eh bien, ce n'est pas une exception, l'apôtre Paul. Il veut que nous soyons aussi comme lui. Soyez mes imitateurs, comme je le suis moi-même du Christ. Alors, tout ce que nous allons chercher à comprendre, ce sont des paroles certaines. Des paroles certaines, des paroles véritables. Et en particulier, que la mort avec Christ nous permet de vivre vraiment avec lui, dans le temps présent, comme aussi dans la vie future. Et pour comprendre les vérités de la parole, oui, vous pouvez être sûr, le Seigneur va vous donner l'intelligence. Ne faites pas de complexe, soyez humble, soyez un petit enfant, tout prêt à apprendre. Mais évidemment, vous allez peut-être être étonné, et peut-être que certains ont déjà été étonnés hier soir, ces messages que je vous apporte, bien, ne correspondent pas toujours à l'enseignement que vous avez reçu. Alors ça, je n'en peux rien. Mais je veux croire que vous avez assez d'intelligence pour contrôler ce que nous vous disons. Si ce que nous vous disons est conforme à la parole de Dieu, ça peut ne pas être conforme à ce qu'on vous aura peut-être enseigné, à certaines théories, à une certaine propagande religieuse qui se fait aujourd'hui, ça n'est pas, je ne porte pas de jugement, mais mon ambition, c'est de vous faire revenir à la parole de Dieu, à ce que la parole de Dieu dit. Quand on vous enseigne quelque chose, il faut qu'on puisse le prouver par la parole de Dieu. De sorte que si vous n'êtes pas d'accord, ce n'est pas avec un homme que vous ne serez pas d'accord, c'est avec le Seigneur Jésus. Et c'est avec cette parole. Et nous demandons que vraiment vous puissiez tout contrôler par cette parole. Au sujet de ce que nous vous dirons, concernant le péché, ce sera notre première étude de ce matin, concernant la chair, concernant le rôle de la loi et concernant, au fond, le monde. Notre thème, donc, les faits divins et nos sentiments, et le premier volet mort et ressuscité avec Christ, eh bien, vous découvrirez, au fond, au cours des messages qui se construiront par l'Esprit, ce que c'est réellement d'être mort et ressuscité avec Christ. Et j'ai ici ces deux cartons là, qui vont nous permettre de vous donner un enseignement progressif avec certains schémas qui, j'en suis sûr, vous aideront. Je les ai faits en 1942 pour apporter la parole et ses vérités à des hospitalisés français qui revenaient des camps d'Allemagne et qui étaient tuberculeux et qu'on soignait dans la ville où j'étais aumônier parmi les tuberculeux à Lesin en Suisse. Et ça les a beaucoup aidés, beaucoup sont auprès du Seigneur, mais ces schémas les ont aidés à comprendre les vérités que je vais essayer de vous exposer. De sorte que nous demandons vraiment à Dieu qu'il bénisse ces moments.